Chers auditeurs, bienvenue dans le Saint du jour. Nous fêtons aujourd'hui Saint François de Laval. Étonnant destin que celui de François de Montmorency-Laval, issu d'une branche cadette de cette illustre maison qui prétend au titre de premier baron de la chrétienté. Né le 30 avril 1623 à Montigny-sur-Avre, baptisé François-Xavier en l'honneur de l'apôtre de l'Extrême-Orient récemment canonisé, il est élevé par les jésuites au collège de la Flèche jusqu'en 1641, puis à celui de Clermont, à Paris. C'est là qu'il découvre chez eux son attrait pour la vie religieuse et les missions d'Asie. Alors qu'il se prépare au sacerdoce, l'abbé de Laval perd coup sur coup son père et ses deux frères aînés. Deuil qui remet en cause sa vocation, car sa mère veut l'obliger à rentrer dans le monde afin de s'occuper des intérêts familiaux. Si le jeune homme consent à revenir un temps au château de ses ancêtres, c'est afin d'y régler les problèmes urgents et préparer son cadet à la tâche qui l'attend. Lui, ne démordant pas de son désir d'être prêtre. Il obtient heureusement le soutien de son oncle maternel, Monseigneur de Péricard, évêque d'Évreux, qui l'ordonne le 1er mai 1647. Chanoine de la cathédrale hébroïcienne et archidiacre, le jeune homme devrait s'installer dans la ville tranquille et cependant pieuse d'un ecclésiastique bien né de son temps, en attendant de succéder à son oncle sur le siège épiscopal. Le ciel en décide autrement. En 1653, les affaires du diocèse l'appellent à Caen pour un long séjour au cours duquel l'abbé de Laval fait la connaissance de Monsieur de Bernières, membre de la puissante compagnie du Saint-Sacrement. Ces dévots, dont se moquera Molière et que Louis XIV finira par éradiquer, est un groupe de catholiques vertueux qui valent infiniment mieux que la caricature de Tartuffe. Avec Bernières et quelques autres, laïcs ou clercs, ils fondent un mouvement de prière et de soutien spirituel, les Bons Amis, qu'ils transporteront ensuite à Paris en 1652. C'est dans le cadre de ce groupe qu'est invité à s'exprimer en janvier 1653 un personnage devenu déjà légendaire au sein de la Compagnie de Jésus, le père Alexandre de Rhodes, sujet du pape puisque né en Avignon, évangélisateur du Vietnam. Au contact du jésuite, trois fois chassé d'Asie et qui est retourné trois fois au péril de sa tête, l'abbé de Laval sent lui revenir ses rêves de mission et sa fascination pour le continent asiatique. Cela tombe bien. Rome, qui a retiré l'évangélisation de ses contrées aux Portugais, cherche à fonder là-bas des vicariats apostoliques dont les responsables auront titre d'évêque in partibus in fidelium, ce qui signifie qu'ils seront à titre honorifique réputés évêques de diocèses disparus depuis des siècles. Le pape, et Louis XIV aussi, y verraient d'un bon œil l'installation de prélats français, leur nation n'ayant pas d'intérêt dans la région. C'est ainsi que l'abbé de Laval se voit offrir avec le titre d'évêque de Pétré, Petra en Jordanie, le nouveau vicariat apostolique du Tonkin, poste qu'il devrait gagner courant 1657. En fait, l'abbé de Laval, à la différence des trois autres impétrants, ne partira jamais là-bas. Victime de diverses cabales politico-religieuses, le nouveau monseigneur s'entend signifier par le roi qu'il doit renoncer à son projet, mais pas à l'épiscopat puisqu'il lui offre, à titre de compensation, l'immense diocèse que Clément X érigera officiellement en 1674 et où tout est à faire, le diocèse de Ville-Marie, futur Québec, fondé par les Suppliciens. En réalité, le territoire qui correspond à celui de la Nouvelle-France recouvre la moitié du continent nord-américain et s'étend de la baie d'Hudson à la Louisiane, n'excluant que les comptoirs de la Nouvelle-Angleterre et les anciennes possessions espagnoles. François de Montmorency accepte, faute de pouvoir dire non au roi, mais aussi parce qu'il se souvient d'un de ses enseignants jésuites de la Flèche, le père Lallemand, qui rêvait du Canada et y a trouvé le martyr. Sacré évêque de Ville-Marie le 8 décembre 1658, Monseigneur de Montmorency atteint son diocèse en juillet 1659 et s'empresse d'y donner la confirmation à ses nouveaux fidèles, dont de nombreux Indiens Micmac. Cette nomination est très politique, mais le pouvoir royal se méprend en pensant que Monseigneur de Laval se montrera accommodant au détriment de ses devoirs religieux. Parfait exemple d'évêque tridentin, François de Montmorency ne confond jamais temporel et intérêt de Dieu. Ainsi se fait-il le défenseur décidé des Indiens contre les trafiquants qui les exploitent et les alcoolisent, au détriment des projets commerciaux de Colbert, qui voit dans la Nouvelle-France l'occasion d'étendre la puissance du royaume et l'enrichir, non de convertir des autochtones dont il n'a cure. Cela vaudra à l'évêque de nombreux déboires avec les gouvernements successifs, désireux d'appliquer leurs consignes et qui se heurtent aux vertueux prélats. S'ajoutent à ces difficultés les tracas provoqués par les jansénistes, encore puissants à la cour, et qui n'aiment pas être combattus au Nouveau Monde où la vigilance de Monseigneur de Laval leur interdira définitivement de s'implanter. Tout cela explique que l'évêque canadien passe son temps, quand il ne sillonne pas à pied l'été en raquette, l'hiver, les immenses territoires dépendant de lui, à visiter son clergé. Depuis la fondation du séminaire de Québec, sa première initiative, il veut ses prêtres missionnaires et mobiles, se refusant à fonder des paroisses sur le modèle ancien. On ne compte plus ses allers-retours entre le Canada et la France afin de démêler les problèmes. Preuve de la confiance qui lui est néanmoins accordée en haut lieu, il est par deux fois chargé d'assurer l'intérim du gouvernement local. En 1685, devenu incapable, pense-t-il, d'assumer sa charge pastorale dans ces conditions extrêmes, Monseigneur de Laval démissionne et rentre en France, non sans avoir au préalable légué au diocèse tout ce qu'il possède, entre autres la seigneurie de Beaupré acquise avec son héritage pour assurer le financement du séminaire. Cependant, à peine revenu en métropole, l'évêque émérite de Québec éprouve un poignant regret du pays et des ouailles qu'il a quittées, tant et si bien qu'il repart. Il meurt à Québec, le 6 mai 1708, laissant le souvenir d'une activité exemplaire et incessante. Le pape François l'a canonisé en 2014 au terme d'une procédure équipollente qu'il a dispensée du second miracle, normalement exigé, en pareil cas.